Amen. Vous pouvez vous asseoir, et les plus petits ont une classe préparée pour eux. C'est le jour où nous célébrons ensemble la table du Seigneur et nous voulons focaliser sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque nous sommes en Exode et nous parlons de Moïse ces dernières semaines, ma propre réflexion était déjà sur Moïse et la comparaison qui est faite entre Moïse et Christ. Et donc nous allons faire juste comme méditation, pas une étude en profondeur, mais une méditation sur ce contraste, cette comparaison entre Moïse et Jésus-Christ. En regardant tout à l'heure Hébreux 3 que nous avons lu, et ici au début Exode 3, ce sera nos deux textes. Donc si vous voulez bien aller avec moi d'abord en Exode chapitre 3, nous avons lu en hébreu que Moïse était fidèle comme serviteur. C'est le constat que Dieu fait de lui. Effectivement, nous voyons sa fidélité. Et l'envoi de Moïse par Dieu est vraiment central à ce récit. Et nous trouvons à plusieurs reprises ce mot « va » ou « enverrai » ou « j'envoie ». Il y a deux mots en fait qui sont synonymes. Notez par exemple Exode 3, verset 10. « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon ». Vous voyez que Moïse, quelqu'un qui va être missionné, envoyé par Dieu. Regardez verset 12. « Dieu dit, je serai avec toi et ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie ». Notez le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Ce sera la première chose que Moïse va leur dire. Je suis pas là de moi-même, je suis envoyé par Dieu. Regardez le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Le premier grand message à donner au peuple d'Israël, c'est que Moïse est la personne envoyée par Dieu. Regardez Exode 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Regardez le verset 16. Va, encore ce commandement. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Et puis, dit verset 18, ils écouteront ta voix, tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès maintenant du roi d'Égypte. Donc, je vous envoie maintenant auprès du roi d'Égypte. Et puis, au chapitre 4, notez le verset 12. Dieu dit à Moïse, va donc. Et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et puis notez aussi le verset 19, Exode 9, 4, 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, encore, va, retourne en Égypte. Donc, en Exode 3 et 4, nous allons trouver ce mot aller 16 fois. Va ou aller, etc. Et quatre fois, nous lisons ce commandement direct de la part de Dieu où il dit à Moïse, va, va, va et va. Hein, Exode 3, 10, 16 et puis 4, 12 et 19. Moïse est l'envoyé de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. On pourrait dire qu'il est l'apôtre de Dieu parce qu'un apôtre, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Moïse est un prophète fidèle. Dieu nous le dit. Il est un prophète fidèle. Un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé pour amener ou pour donner les paroles de Dieu au peuple, n'est-ce pas? Et le mot dire ou parler sous ses différentes formes, se trouve 43 fois dans ces deux chapitres d'Exode. Et ça, c'est le rôle principal de Moïse. Revenez sur en Exode 3, regardez le verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai. » Vous voyez le rôle principal de Moïse, il va parler. Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. » Verset 15, Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Regardez verset 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. » À la fin du verset 17, il dit, verset 18, « Ils écouteront ta voix. » Ta voix, et ça c'est très important parce que la voix de Moïse, ici, parle pour Dieu. Et puis encore au verset 18, ensemble, vous direz à Pharaon le message de Dieu. Alors les jeunes, est-ce que vous avez pensé au fait que c'est intéressant que Dieu n'apparaît pas à Pharaon pour lui parler? Et Dieu n'apparaît pas individuellement à tous les enfants d'Israël, pour leur parler. Quand Dieu arrive dans ce buisson ardent qui se trouve en Exode 3 et verset 4, il n'y a qu'une seule personne. Dieu parle à Moïse. Et puis il envoie Moïse parler au peuple, et il envoie Moïse pour parler à Pharaon. Dieu apparaît à son envoyé, et lui, il est missionné pour aller parler au peuple. Il y a des gens qui cherchent toujours à ce que Dieu leur parle directement. Et puis, il y a des gens de nos jours qui prétendent souvent que Dieu leur parle directement. Mais il est important pour nous de prendre note du fait que Dieu n'a pratiquement jamais parler directement au peuple. En fait, il y a une fois où Dieu l'a fait. Et trouvez le chapitre 20 en Exode. Même livre, donc vous n'êtes pas loin. Dieu, ici, parle directement au peuple. Et il leur donne ce que nous appelons les 10 commandements. Ils appelaient ça les 10 paroles. Et notez la réaction du peuple quand Dieu leur a parlé directement. Verset 19. Exode 20, 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » C'est basé une fois, ils ont dit, « Moïse, on préfère que tu nous parles. Et nous allons t'écouter. » Et moi, je suis convaincu que si Dieu parlait directement à quelqu'un de nos jours, ce serait sa réaction. Si quelqu'un commence à se vanter que Dieu lui parle, il ne faut pas le croire. La Bible dit que, en Hébreux 1, que après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, comment? Par les prophètes. Quand Dieu parle à son peuple, c'était par les prophètes qu'il avait choisis. Dieu ne parle pas directement à son peuple, et le peuple donc est obligé de recevoir la parole à travers Moïse. Et même ce puissant roi d'Égypte, le Pharaon, il n'aura pas un mot de Dieu direct. Il doit recevoir la parole de Dieu à travers ce vieux berger avec son bâton. Moïse donc est l'envoyé de Dieu, il est le prophète de Dieu pour parler à son peuple, pour parler au monde, à Pharaon et à l'Égypte. C'est un prophète fidèle, mais faillible. Faillible veut dire susceptible de tomber dans l'erreur ou de commettre une faute. Et là, on voit l'humilité de Moïse, parce que c'est lui qui est l'auteur humain de cette histoire. Et il ne cache rien, il nous dit toute la vérité. Et il nous dit, pour revenir en Exode 3, quand Dieu lui dit « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon », verset 10, tout de suite Moïse dit, verset 11, « Qui suis-je pour aller ?» Même mot, « pour aller vers Pharaon ». Et donc Dieu lui dit en Exode 3, verset 16, « Va donc maintenant vers les anciens d'Israël, et avec eux tu iras vers Pharaon. » Et Moïse dit, regardez Exode 4, verset 1, « Ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Donc Dieu lui dit d'aller vers Pharaon, il dit, « Qui suis-je, je peux pas. » Ok, va vers les anciens, « Ah, et eux, ils vont pas m'écouter. » Ok. Dieu répond avec beaucoup de patience et Dieu lui donne trois signes qui sont incontestables, des miracles. On va le regarder une autre fois. Mais notez la réponse de Moïse à l'Éternel. Regardez Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassé. » Il résiste encore. Et notez la réponse de Dieu, versets 11 et 12. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc !» Il le répète, troisième fois ici. « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et quelle est la réponse de Moïse au verset 13 ? Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Hein, c'est plus clair. Dans, littéralement, c'est « Envoie ton messager par qui tu voudras l'envoyer. » Notez qu'il parle ici à la troisième personne. Hein, c'est pas moi. Hein. « Envoie ton serviteur qui tu voudras envoyer. » On est très, très loin de la réponse d'Ésaïe. Ésaïe 6, 8, où la Bible nous dit « Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, quoi? Me voici, envoie-moi. Moïse dit, envoie l'autre. Ce que Moïse dit est rendu plus clair dans le second 21. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Et notez la réaction de Dieu contre son serviteur, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Vous voyez, Moïse est fidèle, mais il est faillible. Il est faillible. Et Moïse aussi est un libérateur fidèle. Moïse va faire plus que parler, il va faire plus que donner la parole de Dieu aux hommes. Il va agir. Il va agir avec efficacité, Dieu lui promet. Il va faire sortir le peuple. On le voit trois fois dans trois versets de suite. Et chaque fois, Dieu dit que c'est lui qui va le faire. Revenez en Exode 3:10, 3:11 et 3:12. Et notez ce que Dieu dit, promet à Moïse. Maintenant, Exode 3:10, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Tu le feras. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Et verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Pas de doute pour Moïse, Dieu l'a appelé à faire sortir le peuple de l'Égypte et pour les amener dans la terre promise. Il le dit plus tard, vous amenez dans le pays, toutes les nations là vers lesquelles ils vont aller. Alors, Moïse n'a jamais accepté le titre de roi, mais nous savons qu'il avait la fonction de législateur. La Bible dit en Jean 1 que la loi a été donnée par Moïse. Hein, il va gouverner sur le peuple. Et les peuples vont amener leurs problèmes, etc. à Moïse. Mais en lui-même, Moïse n'est qu'un simple berger de 80 ans. Et on voit, je trouve que c'est très beau, je veux que vous notiez en Exode 4, verset 2, le signe de la puissance divine qui opère à travers sa faiblesse humaine. En Exode 4, verset 2, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge ou un bâton. » Okay, c'est son bâton. Et puis, vous pouvez mettre juste à côté de ça, verset 20, juste à côté le mot verge ou bâton. Et une fois que Moïse part en mission, notez comment on parle de ce bâton. Exode 4:20. Moïse prit sa femme, ses fils, et fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main quoi? La verge de Dieu. Le bâton de Dieu. N'est-ce pas beau? Le bâton du berger devient le bâton de Dieu. Mais Moïse est faible. Moïse est faible. Il n'a en fait que ce bâton. En lui-même, il ne peut rien faire. Et Moïse est aussi un médiateur. Et un médiateur fidèle. Et là, ça c'est le plus développé dans la Bible, parce que cette ancienne alliance est venue donc à travers Moïse. Mais nous avons juste un petit aperçu de ce rôle de médiateur en Exode 3, verset 18, quand Dieu lui dit d'aller vers Pharaon et de lui dire « Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Ça, c'est le point principal pour lequel il doit partir, pour offrir des sacrifices à Yahvé, notre Dieu. Plus tard dans le récit, le rôle central qu'a Moïse dans ses sacrifices, dans tout ce système, c'est lui à qui Dieu va donner tous les plans du tabernacle. C'est lui que Dieu donne tous les détails de ce système de sacrifice. C'est Moïse qui va mettre tout cela en place. Il y aura Aaron qui sera le souverain sacrificateur, mais c'est Moïse même qui entre dans le tabernacle et qui donne même à Aaron ses devoirs à faire. C'est lui qui va intercéder auprès de Dieu en faveur du peuple. Mais Moïse, si vous connaissez son histoire, vous connaissez qu'il est aussi fautif. Hein, il est coupable. Il est responsable d'une faute. On l'a vu déjà, cette tendance de ne pas croire, en fait, à Dieu, et ça reviendra plus tard dans sa vie. Tout le peuple qu'il fait sortir du pays d'Égypte ne pourra pas entrer dans le pays promis. Il y a beaucoup de peuples que Moïse a fait sortir d'Égypte, mais ils vont périr dans le désert. Il va pas pouvoir les amener jusque dans la terre promise. Et encore pire, Moïse lui-même ne pourra pas entrer dans la terre promise. Même lui, à cause de ses fautes, va aller jusqu'à la frontière, mais va pas pouvoir aller. Et donc, nous voyons que Moïse est un prophète fidèle, mais faillible. Il est un libérateur, cette fonction de roi fidèle, mais faible. C'est un médiateur, ce rôle de sacrificateur même, fidèle, mais fautif. Et vous avez peut-être déjà remarqué que nous avons ici une préfiguration des 3 rôles qu'avaient les oints de l'Éternel sous l'Ancienne Alliance, les petits messies qu'on les appelait. Dieu envoyait les hommes pour être oints comme prophètes, pour parler au peuple. D'autres oints comme rois, pour diriger le peuple. Et d'autres oints comme sacrificateurs, pour intercéder auprès de Dieu en faveur du peuple. Et on voyait que l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, les hauts et les bas, c'est par rapport à ces oints de Dieu. Quand il y avait un bon roi qui gouvernait bon, le pays était béni. Quand il y avait un bon prêtre, quand il y avait des bons prophètes, mais quand les faux prophètes, les faux prêtres, les rois rebelles prenaient l'ascendance, eh bien, ils suivaient la colère et le jugement de Dieu. C'est maintenant que je vous invite à trouver notre texte, donc Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, hein, il décrit ici les vrais croyants, ils sont saints, ils font partie de la famille de Dieu, ils sont des frères, frères et des sœurs, on pourrait dire. Et ils font partie de cette vocation, cet appel céleste. Dieu les a appelés. Ça parle de cet appel efficace par lequel Dieu sauve le pécheur. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est l'appel céleste. Ça vient du ciel et ça nous amène après vers le ciel. Et puis il nous dit donc à nous les chrétiens, considérez l'apôtre. L'apôtre par excellence, hein, pas un des apôtres, mais l'apôtre. Et considérez le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est qui ? Verset 2 nous dit, non, la réponse c'est Jésus. Considérez Jésus qui a été fidèle, fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse. Vous voyez, Moïse a été fidèle. Jésus aussi a été fidèle, comme Moïse était fidèle dans toute sa maison. Mais là, au lieu de nous parler des lacunes de Moïse, en fait, il nous dit simplement ici que Moïse était fidèle. Il va nous parler de la supériorité de Jésus par rapport à Moïse, pas simplement du fait que Moïse a fait des fautes, a commis des erreurs, a péché, mais encore quelque chose de plus significatif. Notez-le là, en verset 3. Car il, ça c'est Jésus, qui a été fidèle, comme Moïse a été fidèle, mais Jésus a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que, et voici la comparaison, celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, verset 5, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de celui qui devait être annoncé. Mais Christ, le Messie, il est fidèle comme, pas comme serviteur dans la maison, mais comme fils sur la maison. Vous voyez la différence? Et sa maison, c'est qui? C'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Considérons donc Jésus-Christ, prophète, libérateur et médiateur. Jésus est un prophète fidèle et infaillible. Infaillible. Moïse faillible. Jésus infaillible. Vous voyez ce qu'il nous dit là au début, considérez Jésus, il dit considérez l'apôtre. Le premier terme qu'il donne à Jésus, c'est un terme que nous n'utilisons pas très souvent en pensant à Jésus. Mais Jésus est notre apôtre. Il est notre apôtre. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus est l'apôtre par excellence. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé pour, en fait, nous donner le message de Dieu. Moïse était dans ce sens un apôtre, envoyé, missionné par Dieu pour parler au peuple. Vous avez vu, on a constaté hein, que Dieu ne parle pas directement au peuple, il envoie Moïse pour leur parler en son nom. Alors revenez une ou deux pages en arrière et on va relire le début de Hébreux. Les toutes premières phrases de cette lettre écrite, je vous rappelle, à des Juifs. Hein. Hébreux 1, notez verset 1. Vous y êtes ? Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères. Comment ? Dieu parlait à nos pères, les Juifs, hein, parlait à nos pères, parlait... prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui ? Par le Fils. Pas celui qui est serviteur dans la maison, mais celui qui est établi comme fils de la maison. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui-même, il a créé l'univers. Vous voyez, Dieu ne nous parle pas directement, mais il nous parle par son Fils. Jésus dit, Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est la parole de Dieu. Il est le révélateur de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu même, par excellence. Vous vous rappelez peut-être ce que est arrivé sur ce qu'on appelle le monde de la transfiguration. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là encore, une des rares occasions où Dieu va parler directement. Et qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez-le. Écoute mon Fils. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Écoutez le Fils, tel qu'il nous est révélé par ses apôtres. Et quelqu'un a dit un jour, bien sûr tout cela changera, c'est-à-dire le fait qu'on doit écouter. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, son peuple sera enlevé avec lui et nous le verrons tel qu'il est, comme dit 1 Jean 3:2. Cependant, jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous ne pouvons qu'entendre ses paroles, celles de ses prophètes et de ses apôtres. Nous apprenons à le connaître non par la vue, mais par l'ouïe. Par le sang de sa parole lue et enseignée. C'est comme ça que Dieu entre en relation avec nous. Et donc, un des prophètes, Jean, il va dire en 1 Jean, écoutez, nous avons touché, nous avons vu de nos yeux, nous avons entendu de nos oreilles, et ce que nous avons vu et entendu, nous maintenant, nous allons le transmettre à vous par écrit, afin que vous soyez en communion avec nous, et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Eux, ils ont vu Jésus, et ils ont transmis tout cela par écrit dans la parole de Dieu. La parole, donc, est la révélation de Christ. C'est à travers la parole, maintenant, que nous entrons en relation avec Jésus-Christ. Et donc, quand Dieu dit à Moïse, « Va !» Il va, mais est-ce qu'il va tout de suite? Ça, il prend le temps. Mais, vous êtes en hébreu, cherchez le chapitre 10. Et notez le contraste. À partir du verset 5. Nous allons contraster. Dieu dit à Moïse, va une première fois, je peux pas. Va une deuxième fois, ils vont pas m'écouter. Vois une troisième fois, j'ai pas la parole facile. Va, je serai avec ta bouche. Envoie quelqu'un d'autre. Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, ça nous fait penser à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu est envoyé dans le monde, il est missionné, il est envoyé par le Père l'envoie, il devient, selon Ésaïe, le serviteur de l'Éternel pour venir. La Bible dit en Philippiens 2 qu'il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en se faisant semblable aux hommes. Mais quel était son esprit? Combien de fois est-ce que Dieu le Père a dû lui dire « Va, va, va » avant qu'il aille? Il dit ici, le Christ entrant dans le monde dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est une citation du psaume 40 où il est dit « Je veux faire ta volonté. » Et Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, il dit « Je veux faire ta volonté. » Le Père lui dit « Va » et il y va. Il a même dit à la femme samaritaine, en Jean 4, verset 34, enfin, il parlait plus tard à ses disciples, et Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il arrive face à la croix. Il est tourmenté par ce qu'il sait va arriver et cette séparation avec son père qu'il va avoir. Il dit, s'il est possible que cette coupe soit enlevée de moi. Et après, il donne sa plus grande requête, le cri de son cœur. Mais non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Ça, c'est notre apôtre. Dieu envoie Moïse pour libérer, pas pour mourir lui-même. Et il résiste. Dieu envoie son fils, notre apôtre, pour mourir à notre place. Et il dit, ô Père, je veux faire ta volonté. Et Christ est un libérateur aussi. Un libérateur. Fidèle et puissant. Notez verset 3, Hébreux 3, verset 3. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, celui qui a construit que, voici la comparaison, celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Il est en train de nous dire, plus tard il dit, nous sommes la maison. Et il dit ici que Moïse fait partie de la maison. Ok, donc Moïse, il est un des peuples de Dieu comme nous. Lui fait partie de du peuple de Dieu, mais le Fils est celui qui construit la maison. Il est bien différent ici. Et c'est toute la différence entre la maison et le constructeur. Il y a ici des gens qui travaillent dans le bâtiment. Hein, vous savez, vous avez créé quelque chose. Les gens disent, oh, voilà, quelle belle maison. Comment est-ce que tu t'es fait comme ça? Non, ils te regardent. Comment est-ce que tu as fait cela? Et on regarde le peuple de Dieu. On dit pas, oh, peuple de Dieu, que vous êtes beau. Comment est-ce que vous vous êtes construit comme cela? On dit, oh, fils constructeur, comment est-ce que tu as fait d'eux des enfants de gloire? Et Moïse fait partie de la maison. Mais le fils construit la maison. Matthieu 16, verset 18, Jésus dit, et moi je bâtirai mon église. Nous, on fait partie de l'église. Jésus est celui qui bâtit l'église. Juste au point que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et vous connaissez probablement Jean 14, où Jésus dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc moi je vais vous préparer une place. Moi je vais faire tout. Hein, il ne parle pas ici des clous et un marteau qui va faire un petit coin là au ciel. Il parle de la croix ici. Pour nous préparer une place au ciel, il a dû mourir ici-bas sur la terre. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moïse ne pouvait pas dire ça. Avec le bâton de Dieu, il pouvait lever la main, ouvrir la mer, taper sur le rocher. Mais il y a eu un moment où Moïse lui-même est mort. Il n'a pas pu même accompagner le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais Jésus, non seulement il prépare la place, il vient nous chercher et nous prendre avec lui. Voici le libérateur par excellence. Et puis finalement, Jésus est le médiateur, fidèle et sans péché. Pour revenir en Hébreux 3, notez encore le premier verset. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre, ça c'est le premier terme. Maintenant, quel est le deuxième terme qu'il donne ici à Jésus? Il est le souverain sacrificateur. Il nous parle ici de la part du Père. Il est le souverain sacrificateur, il est l'apôtre, mais aussi il intercède pour nous auprès du Père. Et Moïse a intercédé pour le peuple. Et Dieu même a voulu, il ne faut pas penser que Dieu était... Dieu a tout fait, tout planifié pour que Moïse puisse intercéder pour le peuple. Il voulait que Moïse intercède pour le peuple. Et il répond tout de suite favorablement. Mais il y a toute une génération qui a quand même péri dans le désert. Mais quand Jésus vient à Pierre, il dit, je sais que Satan te veut. Il veut, te prendre. Mais il dit, moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras rétabli, vous voyez, c'est garanti, il sera rétabli, il reviendra, il se repentira, parce que Jésus a prié. Et vous lisez en Jean 17, c'est toute la prière du sacrificateur pour son Église. Pour son Église. Nous avons Jésus comme médiateur. N'êtes-vous pas heureux ce matin, en 2023, que vous n'avez pas Moïse comme prophète et médiateur et libérateur, mais vous avez le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, quelle est l'application? Eh bien, notez ce qu'il dit, là, au verset 1. Ça, c'est l'application. En fait, si vous lisez dans cette lettre, c'est le premier impératif du livre. Avant, il nous parlait de Jésus-Christ, de sa supériorité. Et maintenant, premier impératif, ici au verset 1 de chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est traduit ailleurs, fixez vos pensées sur Jésus. J'aime bien cette traduction parce que c'est quelque chose de très actif qui est demandé là. Fixez vos pensées. Une autre traduction dit fixez vos regards sur Jésus. Une autre dit regardez à Jésus. Second 21 dit portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus Christ. Le premier impératif de ce livre, fixez vos regards sur lui. Pas sur Moïse, pas sur Abraham, pas sur quelqu'un vivant ici sur terre, mais sur Jésus. Parce qu'il est l'Éternel. En Ésaïe, il a dit, tournez-vous vers moi. Fixez vos regards sur moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et maintenant, Jésus lui-même, il dit, tournez-vous vers moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et maintenant, la lettre aux Hébreux nous pousse encore, fixez vos regards sur lui. Et puis, nous arriverons peut-être à la cime de toute cette lettre en hébreu, c'est Hébreux chapitre 12. Et dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand ou si grande nuée de témoins, il parle de tous les témoins mentionnés au chapitre précédent, chapitre 11, il dit, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce que Dieu nous appelle à faire maintenant. Il y a des fardeaux et il y a le péché. Okay? Il y a des choses qui sont pas mauvais en eux, en soi, mais c'est des poids. C'est des fardeaux qui vous empêchent, qui vous retiennent. Parfois, ce poids se trouve dans votre portable. Parfois, c'est un livre. Parfois, c'est une relation. Parfois, c'est la télé ou l'Internet. Il y a des poids qui vous retiennent. Et on nous dit qu'à l'époque où Hébreu a été écrite, ceux qui couraient, ils couraient souvent avec comme des grosses bagues aux pieds, qui avaient un certain poids. Mais pour l'entraînement, jusqu'au jour de vraiment le jour où ils devaient courir pour gagner le prix, et là ils enlevaient. Et ça leur donnait le sentiment, en fait, presque de voler. Ils enlèvent tous ces poids pour courir. Ils enlevaient même tous leurs vêtements. Ils voulaient vraiment courir aussi vite que possible. Et Dieu nous appelle aussi à cela. Enlever, rejetant tous ces fardeaux. Un chrétien qui veut avancer avec Christ, il est toujours en train de faire des choix entre le bien et le meilleur. Il est toujours en train d'éliminer les choses. Pas forcément parce que c'est bon c'est mauvais en soi. Il n'est pas dans l'optique, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Non, il est dans l'optique, je veux rejeter tout fardeau. Et puis il dit ici, tout péché qui nous enveloppe si facilement. Hein, et nous savons qu'un péché, il conduit toujours à un autre péché, qui conduit à un autre péché, et d'un seul coup on se trouve complètement entouré de ces péchés, on se trouve esclave de nos péchés. Il dit, ok, rejetant tout fardeau, rejetez tout péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Ayant les regards sur Jésus. Sur Jésus. Qui suscite la foi en nous et qui l'amène à la perfection. Fixons les regards sur Jésus. Ça, c'est l'application. Pas sur Moïse, mais sur Jésus. Prions. Ô Dieu, nous te louons pour ta parole, pour sa clarté. Nous te louons pour le Messie que nous avons, le Sauveur que nous avons, Jésus-Christ. Et nous prions pour nous tous, qu'il n'y ait personne ici qui soit enlacé, pris par les péchés de ce monde ou par les poids de ses choix, mais que nous puissions tous courir vers la maturité en ayant les regards fixés sur Jésus. Nous te louons de ce qu'il est le prophète par excellence, le sacrificateur par excellence et notre roi par excellence. Et donc c'est à lui que nous voulons venir, c'est à lui que nous voulons suivre tous les jours. Juste.